Nous continuons notre série d'enseignements dans l'évangile de Matthieu. Et donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 1. Et ce matin, nous allons nous arrêter plus longuement sur le verset 21. Je lis dans la version Darby. Matthieu 1, verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Quelques mots d'introduction avant de plonger un peu plus dans le vif du sujet. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons parlé de la naissance miraculeuse du fils de David, du fils d'Abraham. Nous avons vu aussi qu'il est le Christ, et en ce sens, il est celui qui doit régner sur toutes les nations et qui doit être la source de bénédiction pour des femmes et des hommes issus de tous les peuples. Dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, on nous raconte aussi l'histoire d'autres naissances remarquables, miraculeuses ou non, mais en tout cas des naissances que Dieu nous raconte, souvent pour souligner quelque chose que Dieu fait de particulier dans cette période. Parfois, c'est les circonstances qui nous sont racontées en détail. Parfois, c'est la vocation de l'enfant qui nous est précisée au moment de sa naissance, par un ange, par exemple. D'autres fois, c'est le sens de son nom. Pensez, par exemple, à Isaac, le fils d'Abraham et de Sarah. Yitzhak, en hébreu, pourquoi s'appelle-t-il comme ça? Parce que ça signifie « tu as ri ». Et c'est ce que Sarah a fait lorsqu'elle a entendu l'ange dire que Abraham et Sarah, usés par le temps, et Sarah stérile, auraient un enfant. Elle a ri parce que ça lui semblait tout à fait impossible, n'est-ce pas? Et donc, Isaac porte ce nom comme un mémorial de ce que Dieu a fait et de ce que Sarah a vécu dans la communion avec Dieu. Et c'est ce que nous avons dans le verset 21. Vous voyez, nous sommes ici au moment où l'ange annonce à Joseph que Marie, sa femme, va être enceinte. Et il ne se contente pas d'annoncer la naissance, il donne des précisions par rapport à l'enfant à naître. Il lui dit qu'il devra appeler son nom Jésus et explique pourquoi est-ce qu'il portera ce nom. Et si vous êtes un lecteur de la Bible, un lecteur régulier, vous devez avoir cette tendance, comme c'est le cas de la quasi-totalité des lecteurs que nous sommes, à parfois lire un peu trop vite certaines histoires, certains passages, d'autant plus qu'on les connaît, n'est-ce pas? Plus on est familier avec un passage des Écritures, plus on va avoir tendance à accélérer presque au moment où on le lit, pensant que nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir, que nous avons extrait tous les trésors qu'il y avait à extraire dans ce passage, et donc nous le survolons presque. Et j'aimerais aussi préciser que ça doit nous conduire à ralentir le fait de savoir que Dieu veut nous dire quelque chose quand il rajoute ces détails. Matthieu, l'évangéliste, certainement n'a pas écrit froidement son évangile en se disant « voilà, je suis secrétaire et je rapporte tout ce que je dois rapporter, inspiré par l'Esprit. » Mais je suis convaincu que c'est le cœur bouillant qu'il nous parlait du Messie, qu'il nous racontait cette naissance de Jésus-Christ. Après quoi soupirait l'Israélite à l'époque de la naissance de Jésus, l'Israélite pieux?
La venue du Messie.
La venue du Messie, n'est-ce pas? Et après quoi, si vous êtes vraiment chrétien, après quoi soupirez-vous? Après le règne de Jésus-Christ. Vous soupirez, peut-être parfois inconsciemment, après ce jour où, dans votre cœur, dans votre vie et dans le monde entier, le règne de Jésus-Christ sera instauré sans obstacle, sans plus aucun degré. Il sera pleinement révélé et pleinement étendu. Et ce matin, ce que je vous propose de voir dans ce verset 21, c'est que Matthieu, inspiré par l'Esprit, veut nous dire ceci. en rapportant bien sûr la parole de l'ange, c'est pas Matthieu qui le dit directement, mais il rapporte la parole de l'ange, il veut nous montrer ceci, c'est que le règne de Jésus-Christ est désirable plus que tout. Et c'est le titre de la prédication de ce matin, « Son règne est désirable plus que tout ». Et nous allons voir deux choses. Son règne est désirable plus que tout, premièrement à cause de son nom, c'est ce que son nom suggère. Et deuxièmement, son règne est désirable plus que tout à cause de sa mission, de sa vocation. Premièrement donc, le nom de Jésus. Je relis le début du verset 21. « Et elle enfantera un fils, Marie, et tu appelleras son nom Jésus. » Vous le savez, Jésus est un nom hébreu et il signifie quelque chose de particulier. C'est Yeshua ou Yoshua en hébreu et c'est composé en fait de deux mots. La première partie, la première syllabe, c'est un diminutif du nom de l'Éternel, Yahvé. Et donc dans Yeshua, dans Yoshua, vous avez le mot Yah, que l'on retrouve d'ailleurs dans un mot que vous connaissez, que l'on emploie souvent, Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Loué l'Éternel. Et la fin du nom de Jésus, donc Yeshua en hébreu ou Yoshua, c'est un dérivé du verbe pour délivrer, sauver. Autrement dit, Jésus, l'Éternel, sauve. Yeshua, c'est le salut, la délivrance de l'Éternel. Et donc son nom évoque au moins deux choses, et je dirais même que son nom est comme un parfum du salut. En effet, lorsque Dieu donne ce nom à son Christ, il est en train de nous inviter à nous rappeler des délivrances multiples, nombreuses, de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. Il est le Dieu d'Abraham qui a sauvé Abraham de la coalition des rois qui avait capturé son neveu Lot. Et voilà Abraham, simplement avec quelques paysans, prêt à affronter des nations guerrières, et il remporte la victoire, délivre son neveu par l'intervention divine, par l'intervention de l'Éternel. Et si on devait continuer en reprenant même la généalogie du Christ, nous trouvons beaucoup de noms qui nous rappellent ces délivrances de l'Éternel. Sarah, qui est la femme d'Abraham, délivrée d'un roi égyptien qui voulait la marier de force. Et nous lisons dans la Genèse que Dieu va envoyer des plaies et des fléaux pour frapper le roi d'Égypte et le contraindre à relâcher Sarah. Oui, Jésus, ce nom nous rappelle encore d'autres délivrances, Isaac qui est délivré de la mort lorsque Dieu va pourvoir sur la montagne, alors que la lame du couteau de son père est prête à trancher sa gorge, mais voilà que l'ange de l'Éternel intervient et lui dit « Abraham, Abraham, j'ai pourvu ». Et un bélier est donné et Isaac épargné. L'Éternel qui sauve, c'est encore l'Éternel qui délivre Judas et ses frères qui sont mentionnés dans la généalogie du Christ. Judas et ses frères qui étaient menacés par une famine terrible dans cette région. Et comment est-ce que l'Éternel les délivre? En envoyant Joseph, l'un de leurs frères, en Égypte, en le faisant passer par des circonstances étonnantes jusqu'à ce qu'il devienne le plus haut placé du pays d'Égypte, juste après le Pharaon, et qu'il dispose du coup des trésors du pays pour délivrer ses frères de la famine. L'Éternel qui sauve, Jésus, nous rappelle Rahab, la prostituée, qui est sauvée de sa vie de prostitution et qui est sauvée aussi de la destruction de Jéricho, lorsqu'elle entend la réputation du Dieu d'Israël qui vient de délivrer son peuple d'Égypte et que, remplie de craintes respectueuses, elle se dit « Certainement, c'est le Dieu vivant et certainement, nous ne tiendrons pas devant lui. » Et nous pourrions citer encore tant d'exemples. Et on pourrait dire quelque part que l'Ancien Testament, c'est une succession d'actes par lesquels Dieu démontre qu'il est puissant pour sauver de n'importe quelle détresse, de n'importe quel péril, de n'importe quel danger. L'Ancien Testament, on pourrait dire, c'est cette galerie dans laquelle Dieu nous fait circuler et nous montre ses accomplissements merveilleux, ses œuvres grandioses par lesquelles il libère les hommes et les femmes de diverses détresses. Et si je devais encore continuer la liste, je pourrais dire qu'il a consolé des veuves, nous le voyons aussi combler des stériles, redonner leur dignité à des lépreux, soutenir des vieillards, donner un refuge aux étrangers, protéger des orphelins, susciter des chefs vaillants qui viennent combattre pour le peuple, honorer la prière de ses serviteurs et de ses servantes. Il a multiplié le pain, l'huile, il a rassuré et relevé ses prophètes déprimés, il a fait justice à l'opprimé et bien d'autres choses. Et on comprend du coup le cantique à la sortie du pays d'Égypte lorsque Moïse va s'exprimer ainsi. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en louange et accomplissant des merveilles? Ainsi donc, lorsque Dieu, au travers de l'ange, indique qu'il veut que son Christ soit nommé Jésus, il nous invite à revisiter le passé. Et il veut aussi susciter l'espoir, l'attente. Et je nous pose la question suivante. Ne voyons-nous pas du coup qu'il y a une grande erreur à considérer que la grâce commence avec la naissance de Jésus, alors que Dieu semble plutôt nous indiquer que Jésus est la continuité du Dieu qui sauve? Est-ce de cette manière que vous lisez l'Ancien Testament? Et avons-nous appris que le Dieu de la loi est le Dieu de la grâce et de la délivrance? Comprenons-nous que lorsque nous rencontrons Dieu par Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées lui-même, le Dieu puissant et le seul sauveur que nous rencontrons. C'est le sauveur des patriarches, c'est le sauveur des prophètes des temps anciens, c'est le sauveur de tous ceux qui le craignent. À quoi pensons-nous lorsque nous prononçons ce beau nom, Jésus? Et le pasteur J.C. Ryle, qui a vécu au XIXe siècle, a bien raison, je pense, de nous dire que nous pouvons nous approprier les paroles du cantique des cantiques, lorsque, au verset 3 du chapitre 1, nous lisons « Ton nom est un parfum répandu ». Voilà le nom de Jésus-Christ. Et pour cette raison, son règne est désirable, n'est-ce pas? Annonciateur de quelque chose de désirable. Son nom évoque aussi, et c'est la suite de ce que nous pouvons voir concernant ce parfum du nom de Jésus, il évoque un prédécesseur homonyme, un prédécesseur du même nom. Alors je ne sais pas si tout le monde a déjà la référence en tête, mais son nom en français est traduit un peu différemment et dans les autres langues. C'est pour ça que peut-être on ne fait pas le lien immédiatement. Mais en hébreu, c'est exactement le même, Josué. Et l'Épître aux Hébreux va même explicitement nous dire que Josué est un précurseur de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il accomplit quelque chose qui annonce d'avance ce que Jésus va faire, mais en plus grand. Quelle était donc la mission de Josué? Conduire le peuple de Dieu dans le pays promis, le faire entrer dans le repos de l'Éternel. Quelle était la difficulté? Elle était grande puisque Josué devait conduire un peuple rebelle, chargé de péché, faible, pour conquérir des territoires gardés par des nations cruelles et guerrières. Autant dire que ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Parce que la difficulté n'est pas juste devant, mais elle est même au-dedans du peuple. Et pourtant, contrairement à Moïse, qui n'a pas réussi, Josué fait entrer le peuple dans le pays promis. Et comment est-ce qu'il réussit sa mission? Par la force de l'Éternel. Josué chapitre 1, si vous prenez des notes, vous pourrez le relire, un passage assez connu, où Dieu va dire au successeur de Moïse, de la même manière que j'étais avec lui, je serai avec toi, et personne ne tiendra devant toi. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Josué ? Eh bien, simplement parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Josué préfigure quelque chose de plus grand que le Christ va accomplir. De plus grand parce que Josué n'a donné qu'un repos temporaire. Les Israélites sont-ils restés toujours dans la paix, dans le pays promis ? Non. Ils ont fini par être exilés, emmenés en captivité à Babylone à cause de leurs péchés. Et Josué, même quelque temps après, avant sa mort, pardon, il va dire au peuple, « Vous ne pourrez pas rester en communion avec Dieu parce que je sais qu'à ma mort, vous allez vous détourner de lui. Vous êtes un peuple rebelle. » Jésus, en revanche, il est celui qui est capable de donner le repos éternel. Souvenez-vous de ce qu'il dira dans Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et travaillés, vous tous qui croulez sous un fardeau lourd, et je vous soulagerai, et je vous donnerai du repos. » Et il ne nous parle pas d'un repos temporaire, parce qu'il nous parle du repos de la conscience chargée, la conscience lourde à cause de nos fautes, de nos péchés, cette conscience qui nous rappelle que nous sommes séparés de Dieu. Et Jésus nous promet un repos sans fin. Il nous promet de nous conduire dans de verts pâturages, là où il va restaurer notre âme. Le repos de l'Éternel. Alors je demande, qui ne voudrait pas d'un tel roi ? Et oui, on pourrait même demander quelle personne avec un reste de bon sens pourrait s'opposer à ce fils de David. Je l'ai dit au début et je le répéterai souvent dans cette prédication, son règne est désirable plus que tout. Une dernière chose concernant le nom de Jésus, qui nous montre que son règne est désirable, nous avons vu que son règne est désirable parce qu'il nous rappelle les délivrances multiples, nombreuses, variées de l'Éternel. Nous avons vu que son nom est désirable parce qu'il nous rappelle aussi un prédécesseur et sa mission, qui était de donner le repos au peuple de Dieu, ce que Christ fera de manière parfaite. Et son règne est désirable, on le voit, parce que son nom lui est donné par Dieu lui-même. Relisons ensemble le verset 21, le début. C'est l'ange qui s'exprime et qui parle à Joseph et il lui dit donc « Et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus. » Là, l'ange n'est pas en train de lire le futur en disant « C'est ce que tu vas choisir de toi-même, Joseph. » Mais il lui donne une consigne de Dieu lui-même. Alors, pour ceux qui ont eu à choisir des prénoms pour des enfants, en général, vous choisissez un prénom auquel vous avez réfléchi. Il y en a qui choisissent le prénom simplement pour la sonorité. C'est une raison, je me permets de le dire, peut-être un peu superficielle. C'est pas un péché, mais peut-être un peu superficielle par rapport à la tendance générale, notamment dans l'Ancien Testament et même dans le monde entier. En général, on choisit un prénom parce qu'on veut peut-être honorer un membre de la famille, ou on veut se souvenir d'un personnage illustre qui nous a marqué. On choisit un prénom par rapport parfois au sens du prénom, n'est-ce pas ? Et on souhaite que ce prénom ait quelque part, oui, soit annonciateur de quelque chose de la vie de cet enfant. Donc, le choix du prénom révèle ce qui est sur le cœur des parents, n'est-ce pas ? Il nous ouvre une fenêtre sur quelque chose qui anime le père et la mère qui donnent ce nom. Et c'est ce que nous avons là, ici, dans ce texte. Dieu nous ouvre comme une fenêtre sur ce qui repose sur son cœur, sur ce qui occupe ses pensées. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Autrement dit, Dieu nous montre que sur son cœur, il y a le salut des hommes. Dieu aime sauver. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait à contre-cœur, on ne doit pas lui forcer la main, et il n'est pas comme ce juge inique auprès duquel on doit insister et insister pour qu'il nous fasse grâce et justice. Et une fois qu'on a réussi à le convaincre, il agit avec nonchalance. Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime sauver et il ne tarde pas à accorder la délivrance. Et d'ailleurs, j'ajouterais qu'il aime tellement sauver qu'il sauve tous les hommes et en particulier les croyants. Ici, je fais référence au texte de Paul dans 1 Timothée 4, verset 10, où il nous dit que, en effet, Dieu est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Qu'est-ce que ça signifie? Simplement que les croyants sont sauvés particulièrement puisqu'ils ont la vie éternelle, ils ont la réconciliation définitive avec Dieu. Mais chaque fois que dans cette vie, nous pouvons dire qu'un tel ou une telle a été délivré, libéré, sauvé d'une situation de détresse, la main de l'Éternel était derrière cette délivrance, derrière cette libération, derrière ce salut. Vous pouvez penser aux gens autour de vous qui ont eu des accidents, qui ont échappé peut-être à une tentative de meurtre, qui ont échappé à une catastrophe naturelle, à une maladie terrible, et la liste est longue. Et autant de gens qui ont été libérés d'une détresse et d'un péril imminent, la main de l'Éternel était derrière parce qu'il se plaît à sauver. Tu appelleras son nom Jésus. L'Éternel sauve. Je finis cette partie sur le nom en disant que ce nom qui est donné par Dieu au Christ est comme une promesse. C'est comme si Dieu est en train de dire officiellement, vous voyez, j'ai lié ma réputation à celle du Christ. Je lui ai donné mon nom. De sorte que ma gloire que je vais démontrer, la gloire de ma grâce que je vais déployer, sera directement liée à la réussite de sa mission. C'est une promesse que donc Jésus va réussir sa mission parce que, on pourrait le dire, et on doit le dire, d'ailleurs la Bible l'enseigne, la gloire de Dieu est rendue dépendante de la gloire du Christ. J'aimerais vous le montrer en citant ne serait-ce qu'un passage dans Jean chapitre 17, verset 11. Quelques heures avant la crucifixion du Seigneur Jésus, dans sa prière pour son peuple, nous lisons ceci à partir de donc la deuxième partie du verset 11. Jean 17. Et ce n'était pas prévu, mais on lira aussi le verset 5. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 5, si on revient un peu en arrière, voilà ce que le Seigneur Jésus demande au Père. Il lui dit, « Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Cette prière, si ce que je viens de dire avant n'est pas vrai, c'est-à-dire que la gloire de Dieu, il l'a rendue dépendante de celle du Christ, si ce n'est pas vrai, cette prière est un blasphème. Parce que Jésus est en train de dire au Père Céleste, glorifie-moi. Montre au monde entier, montre aux forces invisibles, aux anges et aux démons, que je suis de la même gloire que la tienne, celle qui existait avant que le monde ne soit. Jésus-Christ, par son nom, nous promet que Dieu va honorer son nom en sauvant et en délivrant. Ok. Je l'ai déjà dit un peu avant, mais peut-être la répétition fait partie de la pédagogie. C'est illogique de s'opposer à un tel règne. C'est insensé d'entendre toutes ces choses, de voir Dieu même nous ouvrir une fenêtre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur son cœur, de constater que sur son cœur est le salut des hommes, puis de tourner les talons et de balayer d'un revers de la main un tel Dieu et un tel règne. Le règne de Jésus est désirable plus que tout. Enfin, il est désirable non seulement à cause de son nom, comme nous l'avons vu, et il est aussi désirable à cause de sa vocation, de sa mission, la raison pour laquelle il est venu. Revenons au verset 21 de Matthieu chapitre 1 et je lis la deuxième partie du verset. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Voilà pourquoi il s'appelle Jésus, en somme. Voilà le sens de sa venue, la raison de son nom. Il le dira dans Jean, c'est pour cette raison que je suis venu dans le monde et que je suis né, pour que les hommes aient la vie. Le règne de Jésus est désirable à cause de sa vocation, à cause de sa mission. Et nous allons voir deux choses par rapport à ça. D'abord, il va faire et il fait ce que doit faire tout bon roi. Il va faire et il fait ce que doit faire tout bon roi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qui a fait que Joseph, lorsqu'il est allé en Égypte, a fini par être le leader bien-aimé des Égyptiens? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été apprécié, honoré par le peuple d'Égypte? Lui l'étranger, lui l'hébreu. N'est-ce pas le fait qu'il a su délivrer cette nation et bien d'autres d'une famine terrible? Qu'est-ce qui a fait que David est le roi par excellence en Israël? Si ce n'est le fait qu'il a combattu Goliath et ainsi a épargné son peuple d'une guerre terrible contre les Philistins et qu'il a mené un ensemble de guerres pour libérer le peuple de l'oppresseur. Et peut-être pour prendre un exemple plus récent, du siècle dernier, qu'est-ce qui a fait que Charles de Gaulle a, on pourrait dire, comme triomphé dans le cœur des Français à l'issue de la guerre? C'est évidemment le fait qu'il ait participé activement à la libération de la nation. Tout bon roi, tout bon chef, tout bon leader doit être celui qui protège les siens, celui qui les délivre. Et c'est ce que Jésus fait. Et vous savez, il y a de nombreux enfants au sujet desquels on a annoncé un avenir glorieux. On a espéré qu'ils soient de grands personnages, et notamment beaucoup de fils de rois dans des dynasties. On leur promettait, n'est-ce pas, un avenir glorieux. Mais lorsque l'homme promet ces choses, c'est tout à fait instable. Il n'y a pas de certitude. Mais voyez ici, c'est Dieu lui-même qui parle au travers de l'ange et qui dit « Il sauvera son peuple de ses péchés ». La parole est sûre. Jésus est un bon roi parce qu'il protégera son peuple. Un bon roi ne protège pas simplement son peuple au hasard, j'ajouterai ceci, il protège son roi des dangers les plus criants, des dangers les plus pressants. Il répond aux besoins les plus urgents. Si un roi, je dirais, mettait la priorité pour éradiquer le rhume saisonnier et qu'il était négligent pour rassembler ses soldats alors qu'une armée ennemie s'approche, est-ce que nous conclurions que ce roi est un bon roi parce qu'il a éradiqué le rhume saisonnier, mais a manqué à son devoir le plus urgent, celui de protéger du grand danger de l'armée ennemie? Mais voyez ce que fait Jésus. Il nous sauve, le texte le dit, de quoi? Des péchés. Il sauve son peuple de leurs péchés. Et voilà ce que j'affirme ce matin. Ce n'est pas quelque chose d'original, mais votre plus grand danger, votre ennemi numéro un, l'urgence de vos vies et de nos vies, c'est d'être sauvé du péché. Ce mot qui, à notre époque, sonne presque comme le vent. Il ne veut presque plus rien dire. Qu'est-ce que le péché après tout? N'est-ce pas quelque chose de révolu et d'ancien? Ne sommes-nous pas en train de réinventer une époque qui est dépassée? Mais voilà ce que disent les Écritures, voilà ce que Dieu en pense. Il dit que le péché est notre pire ennemi. Aucune catastrophe naturelle, aussi grande soit-elle, aucune pandémie, aucune guerre, aucune persécution, ni le froid, ni la faim, ni le rejet, ni aucune misère de cette vie n'a le pouvoir de vous entraîner là où le péché peut vous entraîner. En enfer pour l'éternité. Le péché est comme un roi, mais pas le type de roi dont le règne est désirable. Mais il est comme un roi parce qu'en réalité, depuis que Adam a péché, la Bible nous le dit clairement, nous sommes esclaves de ce roi. Nous sommes soumis au péché, incapables de nous en défaire. Il nous soumet à sa loi qui consiste sans cesse à transgresser la loi de Dieu qui est pourtant sainte, bonne et juste. Et le péché ne se contente pas de nous conduire à la mort. Il a dans sa main un salaire. Ce salaire, il ne nous le donne pas toujours tout de suite. Ce salaire, c'est la mort, hein. Romains 6, verset 23. Et pourquoi est-ce qu'il ne nous le donne pas tout de suite? Parce que Satan, qui utilise le péché pour nous conduire à l'enfer, veut nous donner un grand salaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il veut que nous accumulions péché sur péché pour que nous augmentions le trésor de colère que nous méritons. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le péché maintenant? C'est parce que je veux nous faire saisir comme à nouveau le drame que c'est. Vous ne pouvez pas citer dans ce monde un seul malheur sans qu'il trouve sa source dans le péché. Pas un seul. Soit le péché que la personne elle-même a commis, soit le péché qui a été commis contre cette personne. Mais d'une manière ou d'une autre, si l'on creuse, l'ensemble des malheurs de cette vie, l'ensemble des malheurs de vos vies, de nos vies, sont dus au péché. Et si vous n'êtes pas un des membres du peuple de Jésus, vous êtes donc esclave de ce roi. Mais gloire à Dieu, il nous est parlé dans ce texte d'un autre roi, le Christ, le fils de David et le fils d'Abraham. Et comment est-ce qu'il règne? En délivrant son peuple de leurs péchés. Et de réaliser l'implication de cela devrait nous faire crier intérieurement « Viens, Seigneur Jésus, oh, viens !» Viens non pas seulement à la fin des temps, mais viens aujourd'hui. Viens maintenant. Et ne viens pas dans le monde de manière générale, mais viens dans ma vie, dans mon cœur. Viens ici. Jésus fait ce que tout bon roi doit faire, car il nous délivre du pire de nos ennemis. Et enfin, Jésus fait ce que seul le roi des rois, le fils de David, peut faire, car il nous délivre de nos péchés. Voyez-vous, aucun roi de la terre, même le meilleur d'entre eux, ne pourrait nous délivrer de ce mal, car ils sont eux-mêmes en proie au péché. Alors comment est-ce qu'ils pourraient nous délivrer de quelque chose dont eux-mêmes n'arrivent pas à être libres? Mais voici que le Fils de Marie, conçu du Saint-Esprit, qui a été fait semblable à nous en toutes choses, excepté le péché, est envoyé par Dieu avec cette promesse. Il sauvera son peuple de leurs péchés. De fait, sa vie, et nous le voyons dans les Écritures, a une valeur parfaite. Il est le seul à n'avoir jamais commis de péché. Il est celui qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme, chaque instant de sa vie. Sa vie est si propre et si pure que 1000 soleils paraissent sombres à côté de l'éclat de sa moralité. Il est le Christ, celui dont il est dit dans les Écritures, « Tu as aimé la justice, c'est pour ça que ton Dieu t'a préféré à tous tes compagnons. Tu as haï l'injustice. » Et lorsque Christ offre sa vie en sacrifice, il offre pour le rachat de nos âmes ce qui est plus précieux que tout l'or du monde et que tout l'argent du monde. Lui le juste qui meurt pour des injustes. Lui le Fils de Dieu qui meurt pour des fils de désobéissance. Bienheureux le peuple qui a Jésus-Christ pour roi. Bienheureux le peuple qui a Jésus-Christ pour roi. Bienheureux le peuple qui se place sous la domination salutaire et libératrice du Fils de Dieu, du Messie. Qui ne voudrait pas d'un tel roi ? Et qui ne trouverait pas désirable un tel règne ? Et nous parlons ici de la pure vérité de Dieu. Êtes-vous dans la détresse à cause de vos péchés ? Êtes-vous chargé ? Êtes-vous alourdi par quelques périls de l'âme ? Allez à Christ, car il sauve son peuple de ses péchés. Mais voyez ce que le texte dit. Enfin, il nous dit que Jésus ne sauve pas de manière indifférente. Il sauve son peuple. Autrement dit, tous ne seront pas sauvés de leurs péchés. Et c'est une question fondamentale que nous devons régler chacun une fois pour toutes. Certains l'ont peut-être déjà fait, mais il est bon de se réexaminer. Comment savoir si je fais partie du peuple de Jésus-Christ ou non ? Comment savoir si je suis au bénéfice ou non de ce Sauveur merveilleux qui délivre des péchés ? Pourquoi cette question est importante ? Parce que le Seigneur le dit, et nous le verrons dans chapitre 7 plus tard, Dieu voulant. Beaucoup, au jour du jugement, diront « Seigneur, Seigneur, laisse-nous entrer !» Et il leur dira « Je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Littéralement, dans le grec, c'est « vous qui agissez comme des hors-la-loi, anomia, vous qui êtes comme si je ne vous avais pas donné de loi à obéir, comme si je n'étais pas votre roi. » Il est donc crucial d'être au clair sur qui compose le peuple sauvé de ses péchés. Eh bien, deux choses. Sa confession de foi d'abord, ce que ce peuple professe. Qu'est-ce qu'il dit quand on l'écoute ? Lorsqu'on écoute le chrétien, il dit ce qu'on a chanté en fait tout à l'heure. J'allais dire autre chose, mais il dit ce qu'on a chanté. « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon son sang versé pour moi. Je méritais la mort. J'ai péché. Mais voilà que lui est mort à ma place. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité. » Voilà la confession de foi du peuple. Voilà comment on le reconnaît. Mais on le reconnaît aussi par sa vie transformée, sa vie qui est passée du règne du péché à une vie sous le règne du Sauveur des péchés, celui qui nous libère de nos péchés. Autrement dit, je ne peux pas simplement prétendre que Jésus m'a sauvé de la condamnation du péché, des conséquences de la faute, et continuer une vie qui ressemble à la vie de quelqu'un qui n'est pas du tout sauvé dans le moindre degré du péché. Trois choses dont Jésus nous libère, la condamnation, la domination et la présence du péché. La condamnation, c'est lorsque nous croyons en l'Évangile, Dieu nous déclare par la grâce, à cause de notre foi et de l'œuvre de Jésus-Christ, ou plutôt à cause de notre foi en l'œuvre de Jésus-Christ, juste. C'est un acte instantané et on pourrait dire invisible. C'est un acte légal. Mais tous ceux que Dieu justifie ainsi, par grâce, il les sanctifie. Autrement dit, je sais que je suis dans le peuple de celui qui sauve des péchés, pas simplement parce que j'ai compris qu'il est mort pour les péchés et je me dis plus de condamnation pour moi, mais parce que je vois son salut se déployer dans mes affections, dans mes désirs, dans mes œuvres, dans mes actes, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes réactions, dans mes aspirations, dans ma gestion du temps, dans mes priorités. Je m'adresse pour application finale aux chrétiens qui ne désirent plus peut-être le règne de Christ autant qu'avant. Puis aux non-chrétiens qui ne trouvent pas du tout désirable le règne de Christ. Et enfin aux non-chrétiens qui voient que le règne de Christ est désirable mais réalisent qu'il y a un problème, qu'ils n'arrivent pas à le désirer comme ils le devraient. D'abord aux chrétiens, et en particulier à celui qui peut-être s'est refroidi et qui n'a plus ce désir de voir le règne de Jésus grandir, pas demain, aujourd'hui dans sa vie, maintenant et ici. Et si je vous parais un peu illuminé, que Dieu soit béni, devenons fous, car c'est ce monde qui est fou. La sagesse de ce monde est une folie. Christ est glorieux et on devrait, minute après minute, faire comme les anges. Saint, 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 gloire à toi Seigneur. C'est ce que nous ferons pendant l'éternité d'ailleurs. Donc autant nous préparer, n'est-ce pas? Pour quelle raison un chrétien devient un peu froid par rapport au désir de voir Jésus régner dans sa vie? La réponse est hyper simple. La tolérance et la négligence par rapport au péché. C'est pas très profond en apparence, mais c'est en tout cas très vrai. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous vous souvenez, chapitre 24, pour ceux qui étaient là, « À cause de l'augmentation du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Si l'augmentation du mal dans le monde peut faire refroidir l'amour des chrétiens, combien plus l'augmentation du mal, non pas dans le monde, mais dans ma vie personnelle, dans le secret de mon quotidien. Que faire donc pour retrouver ce désir ardent du règne de Christ? Repentez-vous, ayez du zèle. C'est ce que le Seigneur dit à l'une des églises dans l'Apocalypse. Repentez-vous et ayez du zèle. Et vous verrez alors votre amour pour le Christ se réchauffer. Votre amour pour celui qui vous a aimé à en mourir. Il en est digne. Maintenant, que dire à celui qui ou celle qui ne trouve pas désirable le règne de Christ, qui a entendu toutes ces choses concernant le nom de Jésus qui nous rappelle les saluts et les délivrances de l'Éternel, qui a entendu cette promesse que le Christ est capable et sauvera effectivement de ses péchés ceux qui lui appartiennent, et qui pourtant se dit, j'ai entendu ce que tu as dit, Callaghan, mais très clairement, sincèrement, je ne trouve pas ça désirable du tout, ça ne m'intéresse aucunement. Je ne vois pas ce que tu appelles éclatant et glorieux dedans. Bien, je dirais deux choses. La première, c'est que, attention, il ne faut pas faire l'erreur de mal comprendre ce que j'ai dit. Christ est désirable, son règne est désirable en lui-même, indépendamment de ce qu'on en pense. Parce que le critère de vérité, c'est Dieu. Et donc, si vous ne trouvez pas son règne désirable, ce n'est pas qu'il n'est pas désirable. Je vais prendre cette image. Si tous les hommes devenaient aveugles, est-ce que le soleil serait moins brillant? De la même manière, si nous sommes aveugles spirituellement, ça ne rend pas Christ moins beau, moins glorieux, moins désirable. Pour prendre encore une autre image, l'eau est nécessaire et indispensable au corps. Nous ne buvons pas, nous mourons. Mais le jour où nous cessons d'avoir soif ou de ressentir la soif, ça ne rend pas l'eau moins indispensable. Christ est cette eau qui seule peut désaltérer nos âmes pour l'éternité. Maintenant, j'aimerais m'adresser à peut-être quelqu'un qui comprend que Jésus est désirable et se dit, ok, je suis convaincu vraiment qu'il est certainement le roi des rois. Mais cette personne peut-être réalise qu'il y a un décalage entre ce qu'elle a compris intellectuellement et ce que son cœur lui dit. Eh bien, je dirais déjà, il y a une raison d'espérer, une raison de se réjouir. Le simple fait de reconnaître que le règne de Christ est désirable montre que Dieu nous a déjà permis de voir un peu de la lumière. Parce que l'effet du péché, naturellement, c'est de nous montrer Dieu comme un Dieu cruel, un Dieu détestable, et son Christ comme tout à fait méprisable. C'est ce que Satan a fait dans le jardin. Et c'est ce que Satan continue de faire par le péché. Et donc, si vous réalisez déjà que son règne est désirable, bénissez Dieu. Il est déjà en train de l'œuvrer dans votre cœur et de travailler dans votre vie. Que faire donc? Aller à Dieu. Aller vers Dieu, le priant, le suppliant, au nom puissant de Jésus-Christ, le seul nom donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Aller à Dieu avec comme force, la force du nom de Jésus, l'Éternel sauve, et dites à Dieu, sauve-moi, aie pitié de la dureté de mon cœur, de la sécheresse de mes sentiments, de la tiédeur de mon âme devant ton Messie. Et je vous garantis, je ne suis pas prophète, mais les prophètes ont parlé, Dieu vous sauvera. Je vous donne sa parole, je vous propose de finir en priant.